Chers bien-aimés, aujourd'hui nous allons parler du livre des juges. Le titre du livre Juges se réfère aux leaders charismatiques qui ont dirigé Israël dans l'intervalle entre la période après Josué jusqu'à l'établissement de la monarchie. Juges 2:16 affirme que l'Éternel suscita des juges afin qu'ils les délivrassent de la main de ceux qui les pillaient. Vu que c'est Dieu lui-même qui a laissé les nations étrangères opprimer son peuple à cause de sa désobéissance, mais en même temps, c'est aussi Dieu qui a suscité des juges pour les délivrer, alors Dieu est à la fois le juge et le sauveur de son peuple. On peut voir cela dans Juges 11, 27 et 8, 23, d'où Gédéon insiste que c'est Dieu qui est le vrai roi d'Israël. Parlons de l'auteur et la date du livre des juges. Bien que la tradition attribue la rédaction du livre au prophète Samuel, son auteur est à vrai dire inconnu. Il serait possible que le prophète Samuel aurait pu rassembler certains éléments du livre que plus tard les prophètes royaux de la période davidique, Nathan et Gad, auraient édité pour leur donner leur forme finale. Mais ces affirmations ne sont que des conjectures. La date de la composition du livre est aussi inconnue, mais il est probable que la rédaction finale du livre a été faite pendant la période de la monarchie. L'expression « en ces temps-là, il n'y avait point de roi en Israël » qui revient fréquemment le long du livre suggère que le livre aurait été écrit pendant la période monarchique. La remarque faite dans Juges 11:21 affirmant que les Jébusites contrôlaient encore la cité de Jérusalem a poussé certains commentateurs à défendre l'hypothèse selon laquelle le livre aurait été écrit avant la capture de la cité de Jérusalem par le roi David vers l'an 1000 avant Jésus-Christ. Mais les remarques faites au chapitre 17 à 21 concernant les nouvelles conditions d'existence du peuple de Dieu font pencher pour une rédaction après que la dynastie davidique s'était bien établie vers le 10e siècle avant Jésus-Christ. Parlons maintenant des thèmes et de la théologie du livre des juges. Le livre des juges parle de la vie d'Israël après le leadership de Josué jusqu'à l'établissement de la monarchie. L'histoire d'Israël, pendant cette période charnière plutôt, vacille entre l'infidélité constante et répétée du peuple et la punition des dieux. Il parle aussi de l'appel constant et répété du peuple à son Dieu et de ces derniers suscitant un juge après un autre pour délivrer son peuple malgré sa culpabilité. La conquête de Canaan sous Josué a vu l'accomplissement de la majorité des promesses que Dieu avait faites aux patriarches. La terre promise était dorénavant leur possession. La tâche restante consistait à l'occuper dans son entièreté et de la nettoyer de toutes les impuretés cananéennes pour qu'enfin le royaume de Dieu s'établisse sur terre à travers son peuple choisi, vivant dans une terre sanctifiée. Malheureusement, oubliant son Dieu, les alliances établies entre lui et ses ancêtres, le peuple sacré se désacralise en embrassant les divinités et les coutumes païennes des nations qu'ils ont conquises. La question centrale posée dans le livre de Juges est celle de la reconnaissance du Seigneur comme le seul Seigneur qui doit être adoré exclusivement selon les obligations de l'Alliance. Mais l'auteur du livre de Juges accuse Israël d'avoir rejeté son Seigneur, son Dieu, pour les dieux cananéens. Leurs souffrances qui affectent le peuple ne sont autres que l'accomplissement des malédictions de l'Alliance annoncée dans les termes de l'Alliance. Lévitique 26, 14 et puis Deutéronome 28, 15 à 68. À cause des désobéissances répétées du peuple, la structure du livre des Juges suit le modèle cyclique suivant: désobéissance, oppression par les nations étrangères, cri d'appel au secours, intervention du Seigneur par l'envoi d'un juge. Mais malgré les infidélités répétées du peuple, le thème de la fidélité des dieux vis-à-vis de son peuple émerge le long du livre. Le Dieu d'Israël n'abandonne pas son peuple entre les mains de ses ennemis malgré ses faiblesses. À travers son esprit, Dieu suscite des leaders puissants qui apportent la délivrance à son peuple. La période des juges est donc une période de l'activité pneumatique, c'est-à-dire de l'activité du Saint-Esprit à travers les leaders humains faillibles, pris d'un milieu d'un peuple grandement faillible. Le Saint-Esprit sera donné d'une manière spéciale et finale dans l'histoire d'Israël, cette fois-ci à travers la délivrance finale apportée par le second Josué, notre Seigneur Jésus-Christ, afin que toutes les nations du monde soient gagnées au Christ avant la fin eschatologique de l'histoire de l'humanité. Parlons alors du contexte du livre. La datation du livre du juge est difficile. La datation proposée ci-dessus est basée sur 1 roi, chapitre 6-1, qui parle de l'intervalle des 480 ans entre l'Exode et la quatrième année du règne du roi Salomon. Cette information placerait l'Exode aux environs de l'an 1446 avant Jésus et la période des juges aux environs de l'an 1380 avant Jésus-Christ et le règne des Saouls vers 1050 avant Jésus. En outre, l'affirmation faite par Jephté selon laquelle Israël occupait le territoire d'Hesbon depuis 300 ans, juge 11-26, confirme les dates précédentes de l'Exode et la royauté des sols. Et la référence faite au sujet d'Israël dans la stèle de Menepta, une source non biblique, prouve que la nation israélite était bien établie dans la terre des Canaan avant 1270, avant Jésus-Christ. Mais plusieurs commentateurs affirment que le chiffre 480 dans 1 roi 601 serait artificiel en multipliant 12 par 40 les chiffres caractéristiques à une génération dans la Bible. Ces derniers indiquent l'usage courant et fréquent des chiffres arrondis 10, 20, 40 et 80 dans le livre des juges. Une date tardive de l'Exode nécessiterait une période plus courte pour établir la date des juges. Parlons des caractéristiques littéraires du livre des juges. Le contenu du livre des juges permet sa division en trois grandes parties. Prologue, le corps du livre, et puis l'épilogue, c'est-à-dire la fin du livre, la conclusion. Toutefois, une analyse attentive du livre dévoile un contenu complexe dans lequel plusieurs thèmes théologiques sont imbriqués ensemble. Alors, parlons du prologue. Le prologue a deux sections qui chacune a un objectif différent. Les deux premières sections ne sont pas liées et ne présentent aucune continuité chronologique entre elles. La première partie forme la base de l'histoire qui va suivre. Elle décrit l'occupation de la terre promise par Israël, elle parle de leur succès et de leur défaite et punition par Dieu. La deuxième partie, chapitre 3-6, indique une perspective centrale pour la période allant de Josué à la naissance de la monarchie israélite. Elle est caractérisée par le cycle des apostasies, oppressions, appel au secours et à la miséricorde de Dieu. L'auteur introduit le langage familier qui balisera le développement du narratif. Les enfants d'Israël firent ce qui est déplaisant à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de eux deux.